Alors, ce matin, nous avons pris deux versets pour introduire le culte. Le premier était dans Jean, chapitre 15, verset 5. Jésus dit qu'il est le cep, que nous sommes les serments, et que nous ne pouvons, sans lui, rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est écrit ? C'est écrit. Par contre, nous avons lu un autre texte, qu'on va lire quand même dans Philippiens, au chapitre 3, un texte où l'apôtre Paul, malgré le fait qu'il soit emprisonné à cause de sa foi, à cause de son œuvre, il n'est pas du tout embarrassé par l'épreuve qu'il traverse. Si vous avez lu l'épître de Paul aux Philippiens, il ne parle que de joie, de vous réjouir. Vous remarquerez, c'est peut-être le mot qui revient le plus souvent dans cet épître. Réjouissez-vous, je suis dans la joie à cause de ci, je suis dans la joie à cause de cela. C'est un homme qui n'est pas du tout frustré par l'épreuve qu'il traverse, et il a même la joie de pouvoir dire ce que nous allons lire, Philippiens chapitre 4, verset 13, voilà, quelque chose qui explique ce que Jésus souligne lorsqu'il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », de l'autre côté, on peut tout, qu'est-ce qui est écrit, Philippiens 4, 13, « je puis tout par celui qui me fortifie », cette phrase vous pouvez la séparer en trois parties. La première, je puis tout. Deuxièmement, par celui. Et troisièmement, qui me fortifie. Ce matin, nous avons commencé à aborder cette affaire d'être fortifié. Beaucoup de chrétiens vivent mal leur foi. Je suis bien placé pour m'apercevoir que beaucoup de chrétiens vivent mal leur foi, tout le temps dans le combat, le mauvais combat. Ce n'est pas le combat de la foi, le bon combat, c'est ce que nous allons partager. Tout le temps en train de considérer la vie chrétienne comme un fardeau, une corvée. La prière, ça devient une corvée. Servir Dieu, c'est ennuyeux. Aller à l'église, bon, il faut bien. Vous voyez, je sers Dieu, mais je suis épuisé. Si votre vie chrétienne se résume à ce que je viens de vous dire, c'est que vous combattez le mauvais combat. Le diable, lui, bien sûr, se réjouit et souhaiterait que vous continuiez à vous débattre et à vous battre contre la chair et le sang, etc. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit ce matin. Vous l'aurez sur l'enregistrement donc, de la prédication de ce matin. Donc, il faut que nous sachions tous si nous combattons le bon combat ou le mauvais combat. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit continuellement épuisé, j'en ai marre, j'en ai assez, ce n'est pas possible. Jésus a dit, recevez mes instructions et vous trouverez le repos. L'apôtre Jean dit, mais mes commandements ne sont pas pénibles. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça prouve bien que les gens ne savent pas ce qu'est le combat de la foi. Alors, nous avons pris un texte où quand Moïse apprend que Dieu va le reprendre, il dit, écoute, donne des ordres à Moïse, à Josué, affermis-le et fortifie-le, car c'est lui qui va te remplacer. Et lorsque Josué commence son ministère, il entend de la bouche du Seigneur, Josué chapitre 1er, quatre exhortations dans le même laps de temps. Le Seigneur ne se répète pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il a à dire. Le Seigneur, il répète les choses parce qu'elles sont importantes. Nous, des fois, on répète les choses parce qu'on ne sait pas trop quoi dire. Vous le savez, ça hein? Bon, on se répète. Et Dieu, il ne se répète pas, c'est clair. Dieu, s'il dit 10 fois la même chose, c'est parce qu'il faut que ça rentre comme il faut. Josué, chapitre 1er. Donc, Moïse est mort. Dieu lui dit, voilà, il lui rappelle les promesses. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit ce matin. Il lui rappelle les promesses. Pourquoi ? Parce que quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut comprendre une chose, que ce n'est pas l'œuvre de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est liée à des œuvres qu'il a préparées à l'avance, à des projets, à une vision à court terme, à du long terme. Et puis quand on voit l'éternité, c'est du très très long terme. Vous êtes d'accord avec moi ? Hein, le plan de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinairement précis, précieux et long. Vous êtes d'accord? Donc le Seigneur lui dit, voilà, tu feras ci, tu feras là, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Il lui rappelle toutes ses promesses et puis il lui dit la seule chose qu'il faut qu'il fasse. Josué chapitre 1er verset 6, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Alors il explique comment ça se conjugue ça. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ça vous intéresse de réussir? Est-ce que c'est sain de vouloir réussir? Bien sûr. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on prospère? Oui? C'est écrit? Où c'est que c'est écrit? Deux ou trois? C'est ça. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. À partir du moment où l'âme de quelqu'un prospère, il n'y a pas de raison que le reste ne suive pas, parce que quelqu'un qui prospère spirituellement va avoir de la sagesse pour gérer la suite. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit la sagesse a l'avantage du succès. On continue. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 8. Encore un conseil pour avancer dans les œuvres que Dieu a préparées. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ces entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dans le verset 18, le verset B, c'est-à-dire la dernière phrase, fortifie-toi. Alors comment vous avez-vous dans votre Bible? Fortifie-toi seulement et prends courage. Donc deux fois au verset 7, au verset 18, Dieu dit fortifie-toi seulement. Ça veut dire que tu n'as que ça à faire. Si je vous dis ce soir vous venez manger à la maison, seulement il n'y aura que de la soupe. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il n'y a que la soupe. Voilà, il y a ça, seulement. Voilà. Quand ça veut dire qu'il n'y a besoin de rien d'autre. Quand Dieu dit fortifie-toi seulement, ça veut dire tu n'as que ça à faire. Et le reste, moi je le ferai. Si tu agis fidèlement, moi j'agirai. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si vous agissez fidèlement, Dieu lui agira. Alors nous avons vu ce matin plusieurs aspects de l'importance d'être fortifié. La Bible dit que quelqu'un qui est fortifié, si vous regardez la définition, c'est avoir de plus en plus d'assurance. Voilà. Et la Bible dit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas d'assurance? C'est parce qu'ils n'écoutent pas. Ils écoutent, ils entendent, ils sont d'accord. Et comme je le disais ce matin, ils sont capables de dire, oui, tout ce que le pasteur a dit, c'est biblique. Moi, je suis comme les chrétiens de Béret, qui vérifiaient si ce que Paul prêchait était exact. Mais je ne vois pas quoi ça vous avance si c'est que pour ça. Si c'est pour le mettre en pratique, c'est certainement très bien. Mais si c'est juste pour vérifier si ce que dit le pasteur est vrai, et si ça s'arrête là, ça vous fait pas beaucoup très spirituel. On n'est pas spirituel parce qu'on est capable de vérifier que ce qui était prêché est biblique. On est spirituel quand on vit le spirituel. Et Dieu est en train de dire à Josué, écoute, si tu sais ce que tu as à faire, si tu savais le plan que j'ai pour toi, les projets que j'ai pour toi, il lui rappelle, il dit voilà, seulement, fortifie-toi, seulement, en agissant fidèlement. Alors il parle de méditer, il parle de se détourner ni à droite ni à gauche, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Méditer, c'est arrêter sa pensée sur quelque chose. Dieu a dit ça, je vais y réfléchir. Est-ce que vous aimez réfléchir sur une promesse de la Bible? Comment vous faites vos cultes personnels? Tiens, je suis curieux cet après-midi. Comment vous faites lorsque vous, le matin, vous prenez du temps pour vous tenir devant Dieu? Vous voulez que je vous dise un de mes aspects dans mon culte? Je prends un verset tous les matins, que je lis deux ou trois chapitres dans le Nouveau Testament, un chapitre dans l'Ancien Testament, je médite un petit peu tout ça c'est pour moi, et puis je me fixe sur un verset. Comme je vous l'ai dit au mois de juin, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Et tous les jours, pendant 2 mois, j'ai lu ce verset. Ce verset, je l'ai médité. Jour et nuit, je me le suis imposé, comme si Dieu me donnait un ordre, parce qu'il le dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça fait que ce verset m'a permis de comprendre qu'il fallait que je m'applique à connaître le nom du Seigneur, tous les attributs de Dieu. Je vous l'ai dit une fois, il y en a 150 attributs de Dieu, ça commence à faire. Quoi qu'avec le Dieu qu'on a, ça aurait été difficile qu'il y en ait moins. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Bon, alors, Médite jour et nuit. Alors on va voir, agir fidèlement. Si vous agissez fidèlement, vous serez fortifié. Celui qui est fidèle, Dieu sera fidèle. Vous le savez ? Alors on a vu certaines choses. C'est vrai qu'il faudrait redire tout ce qu'on a dit ce matin, mais ce n'est pas ça le plus important, puisqu'on a déjà dit, vous pourrez le réécouter. Maintenant, on va aller plus loin. Comment être fortifié ? Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? On a pris le texte de Ésaïe 40, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ils sont fortifiés. Ceux qui se confient. Est-ce que vous pouvez dire, oui, moi, je me confie en Dieu ? Je vous ai raconté cette affaire quand j'étais pasteur en Polynésie et que je l'ai dit plusieurs fois, mais parce que ça m'a changé complètement. Quand je lisais « Ceux qui se confient en l'Éternel prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas », c'est pas bien ça ? Est-ce que c'est bien ? Quand vous lisez ça, et moi j'étais là tout le temps triste, découragé, enfin ça faisait 3 ans que ça durait, et je dis « Seigneur, mais moi je n'ai pas l'impression de ressembler à un aigle ». Je pensais aux poulets que mes parents avaient dans le grillage, vous savez, quand on allait rentrer. Je riais pas à l'époque. Je disais, moi, je ne ressemble pas à un aigle, je ressemble à un poulet. Vous avez vu ces poulets qui essaient de s'envoler, et ils n'y arrivent pas, on leur a coupé les plumes des ailes, ça fait pitié. Et quand je pensais à ma vie, je pensais à ces poulets que je rentrais le soir quand j'étais enfant. Et j'ai dit, tu vois, Seigneur, l'aigle que tu as dans la maison. Mais je vous assure, je ne riais pas. Et pourtant, je me confie en toi. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, non, tu ne te confies pas, tu pries. Et là, j'ai compris qu'on pouvait prier pour prier. Prier. Je me levais à 5h moins le quart, tous les matins, pour vous dire si je priais. Tous les jours. Et je priais 1 heure, 2 heures, tous les jours. Et au bout de 3 ans, Dieu m'a dit, oui, tu pries, mais ça ne sert à rien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Mais il avait raison. Parce qu'on peut prier, il n'est pas dit ceux qui prient. Il est dit ceux qui se confient en l'Éternel. Et les gens qui prient, et ils prient, ils pensent que parce qu'ils prient, Dieu va les exaucer. Dieu n'exauce pas les gens qui prient. Dieu exauce les gens qui, en priant, se confient en lui. Parce que les païens, ils ne prient pas, les païens. Les hypocrites, ils ne prient pas. C'est écrit ou c'est pas écrit ? Est-ce que Jésus n'a pas dit « Ne priez pas comme les hypocrites, ne priez pas comme les païens » ? C'est écrit. Et c'est pour vous dire qu'un homme n'est fortifié que s'il fait ce que Dieu lui demande. Dieu dit « Si tu agis fidèlement ». Et donc Dieu dit « Il faut que vous vous confiez ». Et c'est là que Dieu est obligé de leur dire « Mais tu l'as pas appris ». Vous vérifierez dans Ésaïe 40, mais tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas appris. Et Dieu pourrait peut-être nous dire « Mais tu ne l'as pas encore appris depuis que tu l'entends dans le cadre d'une église ». Donc, à 4 reprises, Dieu dit à Josué, fortifie-toi, fortifiez-vous. Dans la Bible, on voit qu'à un moment donné, ils se sont fortifiés dans une résolution. Et Dieu les a bénis, parce qu'il est écrit dans Job 22, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions. Quand vous étudiez le peu qu'il y a dans les 5 premiers livres de la Bible, il nous est parlé à 4 ou 5 reprises de Josué. Vous n'êtes pas étonné que Dieu ait porté les regards sur cet homme. Parce qu'on voit dans ce qu'il dit et ce qu'il fait, qu'il est d'équerre avec la parole de Dieu, il est resté carré avec la parole de Dieu, et quand le moment a été venu, Dieu l'a choisi. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait pris la saine habitude d'être droit avec la parole de Dieu. Dieu le lui rappelle, ne te détourne ni à droite, ni à gauche, parce qu'il avait besoin de le réentendre, et parce qu'à des moments, nous avons besoin de réentendre, mais écoute quand même, c'est important, ne sois pas spirituel à l'église, et puis païen à côté, on l'entend des fois. Voilà, des fois, je discutais avec un de mes enfants l'autre jour qui me disait, tu vois, tel frère à l'église, il est sérieux, il prie, il invoque le Seigneur, il est là avec une profondeur, et dès qu'il est dans la rue, il raconte des blagues. Vous voyez, c'est ça, comment on appelle ça ? Comment vous l'appelez ? Mais la religion, c'est ça la religion. C'est la religion, mais c'est vrai, ce que vous avez dit. C'est vrai aussi, voilà. Mais vous voyez, c'est cette ambivalence, vous voyez, ça fait pitié. On le voit des fois. On le voit des fois, moi j'ai discuté avec des gens dans l'église qui étaient très courtois, très polis, et ça m'est arrivé chez eux, et chez eux de les entendre avec un vocabulaire qui était très 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 fleuri, voyez. Vous voyez, c'est ça. Josué, il avait dit un jour, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, il était déterminé, et je peux vous dire que Dieu l'a béni. C'est le premier livre dans la Bible qui porte le nom de son auteur. C'est quelque chose. Hein. Oui, le succès. Tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu, vous m'entendez rarement parler du succès, non? J'en parle souvent du succès? Non, jamais. Mais quand même, c'est autorisé à le faire. Dans un cadre qui colle comme celui-ci, on voit quand même que Dieu veut nous donner du succès. Merci Seigneur. Dieu nous éprouve, Dieu nous parfois nous permet des situations difficiles, mais on voit quand même que la volonté de Dieu, c'est que nous ayons du succès. On parlait de la troisième épître de Jean, où Dieu dit à Jean, parle à Gaïus, il lui dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, on peut prospérer à tous égards, dans tous les domaines, à la maison, au travail, dans la vie sociale, dans la vie de l'Église, on peut prospérer à tous égards. Ça vous intéresse ? Eh ouais, vous pouvez y croire. Alors, il lui dit deux choses, fortifie-toi, donc on a vu ce matin, on vient de le voir un petit peu, et prends courage. Et prends courage. Alors, comment peut-on être fortifié, c'est-à-dire avoir davantage de force ? Je vous le lis dans Néhémie, au chapitre 8 et au verset 10, cet homme de Dieu va dire, la joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. Alors justement, je viens de vous parler de l'épître aux Philippiens. Vous la lirez et vous surlignerez toutes les fois où Paul parle de joie. Ça paraît très 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 paradoxal, parce que comme je vous l'ai dit, il est en prison. Mais il y a des chrétiens qui cherchent la joie. Vous voyez, on parle des gens qui rient bêtement pour rien. La Bible parle du rire de l'insensé. Vous savez, ce qu'on appelle les blagues à deux balles, des gens qui sont tout le temps essayés de faire rire, ils ont que ça à faire. Cherche la joie dans le rire. Je vais vous dire, la joie, vous ne la trouverez pas dans le rire. La joie, vous la trouverez dans l'onction. Vous l'avez déjà vérifié ? Voilà. C'est biblique, hein, ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé. Mais on peut vraiment être fortifié par la joie. Néhémie le dit, dans un moment de combat, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est pour ça que, même quand il est en prison, Paul dit aux chrétiens, mais je vous le dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'y a pas de quoi se réjouir de tout, vous êtes d'accord avec moi. Si vous voulez, si vous ne croyez pas, ce soir en rentrant, regardez pendant une heure les informations et vous verrez, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais il ne nous est pas nous demander de nous réjouir de ce que l'on voit. Il nous est demandé de nous réjouir dans le Seigneur. Est-ce que vous faites la différence ? Dans le Seigneur, pardon, dans la faveur que le Seigneur nous a accordée, dans la bonté que Dieu nous a accordée, est-ce que c'est une grâce de pouvoir dire, ben je me réjouis de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie ? Est-ce qu'on peut commencer la journée en se réjouissant de ce qu'on est sauvé ? Combien de gens, demain, vont se suicider, ou peut-être avant que minuit ne sonne, combien de gens sont enténébrés dans le malheur, dans la misère, et nous, on a là, on a des projets, peut-être que vous avez fondé un foyer, peut-être que vous allez avoir des enfants, et c'est pas des bénédictions, tout ça, hein? Alors, réjouissez-vous dans le Seigneur, Seigneur, tu m'as béni, c'est un commandement. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Ah, bien sûr que nous, avec les ordres, on n'est pas très, très, très chaud. Mais Dieu donne des ordres quand il dit, recevez mes instructions, oui, oui, je suis triste. Mais je veux quand même me réjouir dans le Seigneur. Lisez l'épître aux Philippiens. Lisez cette épître et regardez cet état d'esprit qui ressort de ce cachot. De ce cachot certainement plein de noirceur, de crasse. Vous savez, les prisons de l'époque, quand on les voit, il ressort de ce cachot une bénédiction particulière. La preuve, c'est qu'on a la lettre encore qui a été écrite dans cette prison. Aujourd'hui, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi ? Qui c'est qui peut me citer les trois premiers fruits de l'esprit ? Je voudrais savoir la référence des fruits de l'esprit. C'est bien, merci, merci. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie. Donc, c'est le fruit, c'est le résultat. C'est pour ça que je vous ai souvent parlé de personnes qui se focalisent sur le parler en langue, mais quand vous voyez le fruit, il y a une espèce de décrochage. Par contre, moi je crois que quand quelqu'un remplit le Saint-Esprit, il y a cet amour, cette paix et cette joie. Oui ? L'amour, la paix, la joie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Combien je vous exhorte à apprécier le culte personnel. Bon, quand on est ensemble, c'est vraiment tellement plus facile, parce que quelqu'un vous édifie à votre place. Hein? Mais est-ce que c'est pas une bonne chose que d'apprendre à dire, Seigneur, je veux trouver de la joie dans mon culte personnel. La joie de l'Éternel sera votre force. Il y a des chrétiens, dès qu'ils se lèvent, ils font pas la joie du Seigneur. Ils font la joie de l'ennemi, comme je le disais ce matin, parce qu'ils ont un mauvais pli. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses, alors qu'il allait mourir, vous savez, Jean 14, 13, 14, 15, 16, il y en a des 17, tout ce que Jésus a dit, les dernières choses qu'il a dites avant d'aller au calvaire, hein, il dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Et il nous a dit tout ce qu'il fallait que nous sachions, et bien pour qu'on dise, bon, on sait ce qui va arriver, on sait ce qui va se passer, on sait par les prophéties ce qui nous attend, mais voilà, nous, quand on verra ces choses, réjouissons-nous parce que notre délivrance approche. Voilà. Vous voyez, les épreuves, considérez les épreuves comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ce matin, je vous avais parlé de l'importance que les locaux, les pièces soient propres, que les classes d'école du dimanche soient bien rangées, etc., etc. Voilà. Tout à l'heure, j'arrive de la maison, qu'est-ce que je vois là? Un morceau de tapisserie déchiré dans le couloir. Avant, ça m'aurait énervé. J'ai dit, Seigneur, bon, merci, on le réparera. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à considérer toutes les épreuves comme un sujet de joie. C'est pas facile, mais ça peut. C'est une instruction, Seigneur, je traverse cette épreuve, je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je saute de joie. Considérer les épreuves comme un sujet de joie, ça ne veut pas dire, youpi, je suis heureux, j'ai une épreuve de plus. Oh, vous avez pas, je téléphone à ma femme, oh, j'ai 3 épreuves de plus aujourd'hui, c'est génial. Non, ça veut dire, les épreuves que je traverse, je crois que Seigneur, tu es capable de t'en occuper. Et il y aura un but bénéfique. Le mal sera surmonté par le bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça, la joie complète. Hein. Servez l'Éternel avec joie. On l'a chanté tout à l'heure. Enfin, on a essayé de chanter. Hein. Comment c'était ? Moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. C'est une joie ? Ah oui ? Vous voyez, on sent que c'est une décision que l'on prend. Oui, je choisis la joie du Seigneur. Je choisis. Lisez tous les textes sur la joie. Si vous avez une concordance, faites-le. Pourquoi Dieu dit-il au travers de Paul, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Parce qu'il y a deux états d'esprit. Hein, deux états d'esprit. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous n'avez pas été étonné la première fois que vous avez lu ça? Un cœur joyeux est un bon remède. Mange avec joie ton pain. Est-ce que vous aimez manger? Ah, mais ce n'est pas une question bête, hein, c'est une bonne question, parce que quand même ça occupe une partie du temps. 2 fois, 3 fois par jour, non? Combien de fois vous mangez par jour? Hein? 3 fois? 4? Jérémy, on vous soigne ici, je vois. Hein? Je vais voir ça avec le trésorier. Hein? Est-ce que c'est écrit, mange ton pain avec joie? Est-ce que ce n'est pas un bienfait de manger? Moi, vous savez, j'ai été marqué, les derniers mois quand j'allais voir M. Christian qui ne pouvait plus manger. Et il me disait, si vous saviez comment j'aimerais manger. Il était alimenté, vous savez, par sonde. C'est un plaisir de manger. Depuis que j'ai commencé à prêcher, il y a des milliers de gens dans le monde qui sont morts de faim et de soif. Et quand la Bible dit la joie de l'Éternel sera notre force, ça veut dire que si nous nous appliquons à faire les choses avec joie, cela nous fortifiera parce que c'est un remède. Vous savez ce que c'est un médicament? Vous avez déjà vu vite comment on saute sur le doliprane dès qu'on a des maux de tête. Eh bien, c'est pareil. Seigneur, je choisis la joie. La joie du Seigneur. Le Seigneur Jésus a été oint d'une huile de joie parce qu'il a aimé la justice. Ouais. C'est important, hein? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Vous vous rendez compte? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Quand il termine une de ses épîtres, il dit, au reste, soyez dans la joie. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez qu'il y a de quoi méditer sur la joie. C'est important d'être joyeux. Oui, est-ce que c'est important? Vous préférez discuter avec des gens joyeux ou des gens qui sont tout le temps en train de râler? Avec qui vous préférez être? Quelle question? Non? Il est même dit qu'il faut obéir au pasteur afin qu'il fasse l'œuvre avec joie et non en gémissant. C'est vrai? C'est pas vrai? Hein, c'est vrai. La joie. On va changer de sujet, quoiqu'on pourrait le poursuivre. Éphésiens chapitre 3. L'apôtre, là aussi, il est en prison et il leur dit quelque chose pour être fortifié. Éphésiens chapitre 3. C'est la deuxième prière de cette épître. Donc ça fait partie des choses que Dieu veut. Il y a deux prières dans l'épître aux Éphésiens. C'est la deuxième prière. Donc, Paul demande certaines choses. Donc, de s'approcher de Dieu avec confiance au verset 12. Pourquoi? Alors, regardez bien. Donc, s'approcher de Dieu. Verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne. Vous voyez, c'est un don. Alors, il n'y a qu'à prendre, hein. Faites très attention aux verbes dans la Bible. Il y a des verbes qui indiquent exactement si c'est facile ou c'est pas facile. Quand Dieu dit qu'il va vous donner, c'est facile. Vous êtes d'accord? Il faut prendre. Il faut prendre. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, donc c'est par le Saint-Esprit, puisqu'il y a un E majuscule, dans l'homme intérieur. Donc, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il doit prendre ce que Dieu lui donne, afin que son esprit soit fortifié par l'esprit de Dieu. C'est important de faire un acte de foi. C'est pour ça que Dieu dit « prends courage ». Là aussi, quand Dieu dit « prends », il faut prendre. Voilà. Le deuxième texte dans les Éphésiens, où il nous est demandé d'être fortifié, c'est au chapitre 6. Au chapitre 6, Dieu... Alors là, on n'a pas le temps de tout voir, il faudrait... une prédication minimum pour méditer, vous pouvez le faire. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à verset 19. D'accord? Donc vous connaissez tout ce texte. Au reste, donc, après tout ce que je vous ai dit, ça fait un moment qu'il leur parle, et voilà, maintenant, pour que toutes ces choses que vous devez faire se mettent en place, fortifiez-vous dans le Seigneur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Au reste, bah maintenant, voilà ce qu'il vous faut faire. Fortifiez-vous. Alors, comment? Dans le Seigneur. Vous voyez, c'est toujours dans le Seigneur. Rappelez-vous le verset clé de la prédication. Je puis tout par celui. C'est la clé là, par celui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'on a vu dimanche dernier. Il y a trois choses, le baptême du Saint-Esprit, la maison de prière, et que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il faut commencer par le début. Et le début, c'est véritablement que le baptême du Saint-Esprit corresponde à une vie de grâce dont il faut que je sois fortifié. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous vous débattez, si la vie chrétienne c'est un fardeau, je le répète, c'est que vous combattez contre la chair et le sang, vous vous débattez. Je donnais ce matin le témoignage d'une fille qui est venue me voir cette semaine, elle était défaite. Pourquoi? Elle a commencé à se disputer avec les collègues, avec le chef de service, avec le patron, parce qu'ils lui ont fait une remarque un soir au boulot, ils lui ont fait une remarque. Est-ce que ça peut arriver qu'on nous fasse une remarque? Ben, elle aurait dû dire, écoutez, moi je serais parti, on m'a fait une remarque. Bon, je veux dire, ou alors je me serais excusé le lendemain, je dis, écoutez, excusez-moi pour la réaction d'hier, ça n'a pas été malin, j'étais fatigué. La personne, elle est rentrée dans un combat, et maintenant, ça a été très loin, et je lui disais, mais vous priez? Ah non, je ne prie plus, je ne lis plus, Elle est entrée dans un mauvais combat. Elle aurait dû dire, Seigneur, je te remets cette situation. Je veux aimer mes collègues, je veux aimer mon chef de service, je veux aimer mon patron. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez, vous connaissez tous ces textes. Voilà, c'est ça le bon combat. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Les ordonnances, lisez le psaume 119. Et regardez toutes les fois où David parle des ordonnances. Les ordonnances de l'Éternel sont toutes justes. Il n'y a pas un ordre de Dieu qui est injuste. Ce matin, je disais que nous, des fois, on a eu donné des ordres injustes à nos enfants. C'est déjà arrivé? Pas souvent. Merci, les gars. Mais c'est vrai. Merci, tu me flattes. Mais avouez que souvent, on ne peut avoir donné des ordres injustes à nos enfants. On peut avoir dit, bon, mais taisez-vous, c'était pas pour eux, c'était surtout pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Dieu ne peut pas donner un ordre injuste. Et quand il dit, ne combat pas contre la chair et le sang, c'est parce qu'il sait très bien que ça va nous pénaliser et qu'on va être fatigué, épuisé. Seigneur, comment tu faisais toi? celui qui, quand il était maltraité, ne faisait pas de menaces. Quand il était injurié, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand il était injurié? C'est écrit. Voilà, il ne rendait pas d'injure. Il s'en remettait à celui qui juge. Est-ce que Jésus aurait eu la pédagogie, le tact pour renvoyer la vapeur? Dites-moi. Il s'en remettait à celui qui juge. Et je crois qu'il y avait une huile de joie sur son ministère. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et là, il y a tous les éléments pour être armé. Il y a l'image certainement de ces soldats qui devaient garder l'apôtre Paul. Et inspiré par le Saint-Esprit, l'apôtre Paul va faire le rapprochement avec toutes les armes qu'un homme, qu'un soldat utilisait eh bien, pour pouvoir se battre. Ayez, hein, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Parce que des ruses du diable, il y en a. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a toute une panoplie aussi. Hein. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce qu'il y en a des mauvais jours? Il y en a des mauvaises journées? Mais oui, si c'est écrit, il y en a. Hein? Et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. C'est ça être fortifié. Je suis ferme. Je ne lâcherai pas. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Il faut qu'on puisse marcher cette ceinture, soulever la robe pour pas que l'on trébuche en marchant. Il faut qu'on marche avec assurance. La vérité pour ceinture. Voilà, on s'est moqué de moi. Eh bien, c'est pas grave. Seigneur, bénis-le. Et c'est réglé. Il y a des gens, quelqu'un, oui, il s'est moqué de moi. Toute la journée est gâchée. Voilà, ils sont empêtrés dans la marche toute la journée. S'ils avaient eu la vérité pour ceinture, ils auraient... La vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi? Ta parole est la vérité. C'est pour ça qu'il faut méditer. Parce qu'en méditant, le Saint-Esprit a le pouvoir de vous rappeler ce que vous avez appris. Où c'est écrit ça? Le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Où c'est écrit? Jérémie, il te faut trouver un autre passage. Jean chapitre? C'est bien, madame Chapeau. Je vous prends comme ministère dans l'église. Hein? Comment le Saint-Esprit va-t-il nous rappeler quelque chose si on ne l'a pas appris, si on ne l'a pas médité? Ça tient, vous comprenez? La vérité pour ceinture. Alors, on les lit juste. Hein? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse. La cuirasse, elle protège la poitrine. Elle protège le cœur. Le cœur. Comment je vais aimer Dieu de tout mon cœur si mon corps, mon âme est complètement attaqué par les attaques de l'ennemi? Il faut que mon cœur soit couvert par la cuirasse de la justice. C'est important. Quand Dieu dit quelque chose, voyez, je donne un exemple. Quand il dit « Approchez-vous le cœur sincère dans la plénitude de la foi ». C'est ça la cuirasse de la justice. Je peux m'approcher de toi comme je suis. La plénitude de la confiance. Seigneur, je te fais confiance. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Le problème, c'est lui, c'est pas nous. C'est ce que je disais au mois de juin. C'est pas nos « je suis » qui sont importants. Je suis bête, je vaux rien, je suis petit, je suis ci, je suis jeune, je suis vieux. C'est pas nos « je suis ». La cuirasse de la justice, c'est « mais moi je m'approche du « je suis ». Qui a dit « je suis le Tout-Puissant, je suis la résurrection ». Voilà, ce sont pas nos « je suis » qui sont importants, ce sont les siens. Vous êtes d'accord? La justice, ces attaques-là ne me toucheront pas le cœur parce que je suis couvert par la justice, donc la justification divine. Voyez? Fortifié par les armes. Quand vous avez un chrétien qui a 10 ans de conversion et qui remet en question, oui, je ne sais pas si Jésus m'aime. Vous croyez qu'il est armé de la cuirasse de la justice? Est-ce que Dieu vous aime? Vous êtes sûr? Mais pourquoi vous le croyez? Pourquoi vous dites oui? Parce qu'il l'a dit. Il l'a dit. Il nous aime. Il aime qui? Les meilleurs? Et qui c'est qu'il a tellement aimé le monde? Ça nous dépasse ça. Il aime tout le monde. Donc il vous aime. Vous voyez, quand quelqu'un, au nom de l'humilité, en plus on va trouver des trucs et des excuses. C'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Vous pouvez le dire comme vous voudrez. Si vous dites oui, Dieu ne m'aime pas, c'est de l'orgueil. Je peux vous l'expliquer dans un entretien privé parce que ça prendra du temps. Mais je peux vous dire que quelqu'un qui ne croit pas ce que Dieu dit est un orgueilleux. De l'orgueil inconscient. Parce que est-ce que vous savez qu'il y a de l'orgueil inconscient ? Il y a pas, on n'est pas. C'est pas que de l'orgueil. Il y a des gens, ils sont orgueilleux, ils choisissent de se dire moi je suis meilleur que les autres. Ça, ils le savent. Mais il y a de l'orgueil inconscient. Mais quand un homme se saisit des armes de Dieu, il dit, mais c'est vrai, Dieu l'a dit, bon, je le crois, ça change de ce que je pensais. Oui, ça change beaucoup, mais je le crois. Dieu l'a dit, c'est important. Vous voyez ? L'épée, qu'est-ce qu'il dit après ? Le zèle que donne l'évangile de paix. L'évangile, il donne la paix. Hein ? Le bouclier, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits. Par contre, moi, je trouve que l'ennemi, les traits enflammés, des fois, il y en a dans la journée, non ? Combien des fois dans la journée ? Combien peut-il décocher de traits enflammés dans une même journée, le diable ? Tiens donc, allez, on va faire un sondage. Combien l'ennemi peut-il décocher de traits enflammés dans une même journée qui dure 24 heures ? Comment ? Oui, beaucoup, très. Sérieusement, il y a des jours, non, mais il y a des jours, on se sent personnellement quand on attaque. Moi, je fais très attention au combat spirituel parce que souvent, il y a du déséquilibre qui s'installe. Les gens confondent le charnel, le terrestre, l'humain, tout ça, le combat. Mais vous avouerez que quand même, il y a des fois, on sent très bien qu'il y a des attaques de l'ennemi. Eh bien, le bouclier de la foi, alors là, c'est clair, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous n'avez pas de bouclier. Vous comprenez ? Un bouclier, de suite, pas, vous avez un verset biblique qui vous sert de pare-feu, de bouclier. De suite. Et ça se travaille. C'est pour ça que Paul, Dieu dit, mais fortifie-toi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et Josué, lisez Josué. Josué, il y a 24 chapitres, si je me trompe, c'est ça ? Bon, hein, vérifie. Il y a 24 chapitres, il a toujours consulté Dieu, sauf deux fois. Deux fois, il n'a pas consulté. Oui, deux fois, il aurait mieux fait d'aller à Gilgal, là où il devait se tenir. Bon, mais combien de fois ça nous est arrivé ? Mais Josué a pris très, très, très au sérieux. Et moi, je pense qu'après Moïse, ça a été le meilleur chef d'État d'Israël qu'il ait jamais connu. Parce que c'est un homme qui consultait toujours le Seigneur avant de faire quoi que ce soit. C'est exactement ce que nous sommes en train de partager. Moïse nous l'a enseigné lorsqu'il était sur la montagne et que Dieu lui a dit « Monte sur le mont Pisgah, c'est ça, Mitzpah, et lève les bras vers le ciel. » Et moi, je combattrai à ta place. C'est ça la confiance. Ce n'est pas de lever les bras. Ça ne tient pas debout. Ce n'est pas parce qu'on va lever les bras qu'on a confiance en Dieu. Mais ça a exprimé un homme qui est tendu vers Dieu. Vous voyez, il y a des images. C'est une image. Et là, Dieu combattait pour lui. C'est là que la signification du nom de Dieu prend toute son importance. Alors, je termine. Abraham a été fortifié par la foi. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a donné gloire à Dieu. Paul dit à Timothée, un jeune pasteur, il lui dit quelque chose qui est très tendre. Il va lui dire, souffre avec moi comme un soldat et l'athlète. Et il parle de serviteur, il parle de vase, il parle de laboureur. Mais il commence avec cette tendresse, mon enfant. Parce qu'avant d'être des serviteurs, des soldats, des guerriers, des laboureurs, des athlètes et tout ce que vous voudrez, on est d'abord des enfants du Seigneur. C'est pas important de se le rappeler. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans... La suite, c'est quoi ? Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Ne dis pas fortifie-toi dans tes prières. Prie, bien sûr qu'il faut qu'il prie. Bien sûr qu'il lui demande d'être de se délivrer de la timidité. Il a dû se faire tacler quelque part et il a peur peut-être des anciens. J'en sais rien. Mais il lui dit... Tu ne t'as pas donné un esprit de timidité, mais fortifie-toi dans la grâce. C'est la grâce qui nous rend à vainqueurs. Ce n'est pas nos œuvres et notre force personnelle. Fortifie-toi dans la grâce. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est un choix. C'est un choix. Quand on termine avec ce texte dans le psaume 32. Dans le psaume 32, on voit un homme qui a décidé de mettre sa vie en règle. Il a longtemps souffert, c'est David, il a péché, Il le reconnaît, d'ailleurs il commence avec la joie du pardon. Moi je suis persuadé que c'est un psaume qui commence par la conclusion, il est tellement pressé qu'il commence par la conclusion. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, il ne peut pas commencer autrement ». Vous voyez, il est dans une véritable joie. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude ». Alors il met sa vie en règle, il met sa vie en règle, il fait connaître son péché au Seigneur, bon c'est réglé. Et après, regardez bien, au verset 6, regardez bien. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Le temps convenable, c'est sur la terre. Parce qu'après la terre, c'est trop tard. Vous ne pourrez pas prier et dire pardon au Seigneur après votre mort. Non, c'est sur la terre qu'on peut mettre sa vie en règle avec Dieu. Le temps convenable, c'est sur la terre. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors après, il compare les gens qui ne s'approchent pas de Dieu à des mulets. C'est pas moi, c'est David. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Dans ce psaume, au début ça commence, le gars il était dans l'apesantissement, dans le gémissement, la main de Dieu s'apesantissait sur lui, sa vigueur n'était que sécheresse, il n'y a que le péché, l'iniquité, les transgressions. Il met sa vie en règle, Dieu lui dit, mais voilà, je vais te conduire, je vais te conseiller plus loin, je vais te fortifier. Et voilà, et ça termine avec une grande joie. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus simple. Dieu dit à Josué, je te donne un ordre. Fortifie-toi. Écoutez, vous voulez réussir dans vos entreprises? Vous voulez que Dieu combatte pour vous? Non? Est-ce que vous voulez réussir? Pour Dieu, déjà pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas quand même un honneur de réussir pour Dieu? Vous ne croyez pas qu'une église, il vaut mieux qu'elle réussisse? Pour elle ou pour la gloire de Dieu? Quand même. Mes frères, je te donne cet ordre, dit le Seigneur. Je te donne un ordre. J'espère que vous aimez les ordres de Dieu parce que, comme je l'ai dit, ils sont tous intelligents. Je te donne cet ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Agis fidèlement. Faisons ce que nous avons partagé autant ce matin que cet après-midi. Et Dieu agira fidèlement. C'est lui qui l'a dit. Que son nom soit béni. Méditez ces choses, si vous avez une concordance, prenez tous les textes où il est parlé de force, d'assurance, d'être fortifié. Faites vos cultes personnels. Prenez le psaume 119 et regardez toutes les fois, il parle des ordonnances. Et vous allez comprendre pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas le hasard, c'est pas tombé sur lui. Le Seigneur, il n'a pas ploufé pour chercher un berger. Je peux vous dire qu'il a repéré depuis un moment que ce gars, c'était un homme qui avait la crainte du nom de l'Éternel. Il n'avait pas la crainte quand il allait à l'église, c'était partout, partout, et surtout quand il était seul. Certains lions et certains ours doivent s'en rappeler. Voilà, on va fermer les yeux si vous voulez bien. D'accord? Demandons au Seigneur qu'il nous aide à faire ce qu'il faut pour être fortifié. Je vous invite à tous à vous recueillir. Est-ce que vous voulez réussir? C'est au Seigneur que vous devez répondre. Pour sa gloire. Vous savez que je ne prêche jamais, jamais sur la prospérité. Ça fait 28 ans que je prêche, je n'ai jamais prêché sur la prospérité. Mais quand même, la Bible en parle. Et Jésus dit, c'est ainsi que tu auras du succès, que tu prospéreras. Dieu peut faire prospérer un homme qui voit son âme prospérer. Alors si vous voulez du succès, ce qui n'est pas incompatible, bien sûr si vous voulez du succès que pour du succès pour vous, Dieu saura ce qu'il faut. Mais si vous voulez le succès pour sa gloire, et si vous dites oui Seigneur, tes ordres ne peuvent être que tous justes, intelligents, appropriés à mon besoin. Tu as donné un ordre à Josué, par projection, tu m'en donnes un cet après-midi, je l'accepte. et je vais écouter afin d'avoir de l'assurance. Je ne vais pas lire la Bible et je ne vais pas prier. Je vais méditer. Et quand je prierai, je saurai que j'ai un Dieu qui m'entend et je me confierai en lui. Prions, mes frères et sœurs. Prions de tout notre cœur. Le Seigneur est notre aide. Nous n'avons rien à craindre. Il est avec nous. Ce qu'il a dit à Moïse, à Josué, je serai avec toi. Il nous le dit dans le Nouveau Testament. Son nom, de toute façon, ne signifie que cela. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors soyez dans la paix. Soyez dans la joie. La joie de l'Éternel doit être votre force. Séparez la tristesse des incidents de la vie que vous observez. Sachez scinder les choses. Sachez faire la part des choses et dire, Seigneur, je te prie pour ces situations difficiles. J'ai de la peine quand je vois les images des enfants qui meurent en Somalie. Je suis peiné, ça m'attriste. Oh, combien moi je veux que mes enfants soient bénis. Mais soyez dans la joie du Seigneur. C'est ça, il faut arriver à le faire. Arriver à pleurer avec ceux qui pleurent et arriver à se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est vrai, c'est un petit peu, c'est un peu de l'équilibrisme, mais ça s'apprend. Par la grâce de Dieu. Et si on est fortifié, Dieu pourvoira. Vous agissez fidèlement, eh bien Dieu agira fidèlement. Notre Père, notre Dieu, tu nous as rassemblés pour que nous aussi, à notre tour, en combattant le bon combat, nous puissions confesser que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. C'est toi qui fortifies, nous l'avons compris, que sans toi, nous ne pourrions rien faire, ou que ce que nous ferions serait voué à l'échec. Seigneur, nous réclamons ta grâce. Nous sommes venus cet après-midi pour toi, nous sommes venus pour apprendre, nous sommes venus parce que nous avons besoin de toi, nous avions besoin de te louer, de te adorer, mais nous avions besoin de cette nourriture, Seigneur. Et nous te prions de nous aider. Comme tu as aidé Josué, comme tu as su l'interpeller, lui communiquer tes ordres, Seigneur, et tes promesses, continue à nous rendre sensibles à chacun de tes ordres, à chacune de tes promesses, afin que l'avenir soit vécu avec ta grâce. Oui, Seigneur, nous aussi, nous voulons imiter l'apôtre Paul, puisque tu nous le demandes, en arrivant à ce stade où nous pourrons faire toutes tes œuvres par ta grâce qui nous fortifiera. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.